Merci à tous et à toutes d'être présents et présentes. Donc nous allons commencer ce festival avec la rencontre avec Monsieur Arnaud Bertina, écrivain, qui nous fait l'honneur d'être là, d'être l'invité de la semaine. Ça va être la rencontre la plus longue et on espère qu'elle va beaucoup vous marquer. Commençons sans plus tarder.
Merci. Alors, l'œuvre d'Arnaud Bertina est importante, hein, pour ne pas dire énorme, immense. Donc, j'ai choisi plutôt dans cet entretien de me concentrer sur deux textes, qui sont deux textes récents, deux textes documentaires. Hein, l'un qui porte sur la condition des prostituées au Congo, de très très jeunes femmes, et qui s'intitule L'âge de la première passe. Et un autre texte qui porte sur la grève des ouvriers de l'usine GMS et la tragédie industrielle qui est la fermeture de cette usine et la manière dont Arnaud Bertina a accompagné, a vécu avec ces personnes pendant quelques mois et pu mesurer ainsi leur détresse et la situation. Alors, la première question qui vient à l'esprit en lisant ces deux textes, c'est peut-être celle-ci. Et là, je vous cite, hein, un livre naît souvent de l'effroi que l'on ressent à voir la vie négligée ou humiliée. Est-ce que c'est cela qui vous a conduit au Congo, dans l'usine de la souterraine en cours de liquidation? Cette indifférence à la vie, cette solitude des gens que vous interrogez, pourquoi le Congo et pourquoi la souterraine?
Bonjour, merci beaucoup de m'inviter cette année. Je suis très touché et qu'on fasse cette place-là à mon travail. Oui, je crois que, enfin, c'est en multipliant les séjours au Congo et puis en Creuse, parce que les deux livres se sont un petit peu chevauchés dans le temps. Il m'a semblé que ça pouvait peut-être être une sorte de définition un petit peu ouverte de la littérature, parce que j'ai retrouvé beaucoup de traces dans les livres des autres, dans des livres même des siècles précédents, etc. J'ai trouvé beaucoup de traces de cette effroi devant les conditions faites à la vie. Donc c'est une définition ouverte. Pourquoi? Parce que ça évite le piège de la question de l'engagement. Qui elle, au contraire, propose de la littérature ou du geste créatif une définition assez, assez étroite, assez restrictive. Alors que le fait de dire que la création artistique est une réponse à une forme de stupeur devant la violence à laquelle sont exposés les gens au cours de leur vie, toute forme de violence. Il me semble que voilà, c'est une définition plus ouverte. Et surtout, c'est une définition plus ouverte parce que ça laisse l'autrice ou l'auteur convoquer les moyens qui lui semblent les plus justes pour essayer de répondre à cet effroi. C'est-à-dire que si, par exemple, à tel ou tel, c'est l'humour qui lui semblera la meilleure arme, ben voilà, ça peut donner donc des grands livres comiques. Et on ne verra pas immédiatement qu'en fait, il y a un fond d'inquiétude, mais une lecture attentive nous le donnera à lire, nous donnera à lire cette inquiétude-là. Donc voilà, l'idée que la vie est fragile et que parfois on n'est pas armé pour essayer de faire une vraie place à cette fragilité-là. Il y a par exemple dans des livres qui m'ont beaucoup marqué, comme Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry. Il y a beaucoup d'exemples comme ça où Malcolm Lowry fait dire ou jouer à son personnage de consul des scènes dans lesquelles on voit que sous des dehors bravaches, en fait, il y a une espèce de panique fondamentale. C'est-à-dire que la vie est trop fragile et qu'il faut arriver à répondre à cette panique-là. Et je trouve ça vraiment très très beau. Il y a aussi chez un poète comme par exemple Frank Venaille. Frank Venaille s'arrête assez souvent dans certains de ses recueils sur les chevaux de mine. Il est sidéré par la violence qui a pu être faite au fil des siècles aux chevaux de mine par les hommes qui, par exemple, en leur crevant les yeux pour qu'ils puissent rester au fond de la mine, ou alors les mines qui sont inondées en laissant les chevaux à l'intérieur, etc., etc. Des choses comme ça, c'est-à-dire vraiment des images qui deviennent pour ces artistes-là des images obsédantes de moments où la vie est humiliée et avec l'espoir que l'œuvre d'art va pouvoir répondre à cette humiliation-là, c'est-à-dire redresser les gens. Et moi, c'est un petit peu, dans une moindre mesure, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé au Congo, c'est-à-dire d'être face à des très jeunes femmes de 14, 15, 16 ans, et qui déjà, pourtant si jeunes, avaient déjà eu affaire à toute forme à plein de formes de violences différentes. Et moi, j'étais... J'avais le cœur serré devant ça. Je me sentais aussi assez démuni, c'est-à-dire que je n'ai pas les moyens de les sortir de cette misère-là. En revanche, les moyens que j'ai et qui, je crois, ne comptent pas pour rien, c'est de bien parler d'elles. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas parler d'elles uniquement que comme des victimes. C'est-à-dire de montrer, quand j'ai sous les yeux des preuves qu'il y a encore une vitalité, qu'il y a encore une énergie, un espoir, une intelligence qui s'exprime chez elles, et bien justement, à la fois d'écrire par quel biais elles sont victimes d'un ordre économique, d'un ordre de violence masculine, etc., les montrer aussi encore... en train de se battre, les montrer aussi encore en train de s'amuser, etc. Et donc, parler bien d'elles, c'est les réinscrire dans quelque chose de plus large. La vie sociale les assigne à un endroit où elles souffrent, à un endroit où elles sont justement victimes, mais l'œuvre d'art, ça va être le moment où justement on va essayer de les relever de cette humiliation-là.
Oui, et c'est peut-être plus fort que la colère, dont on sent quand même qu'elle vous saisit par moments, et que un discours purement militant qui reviendrait au fond à témoigner à la place des autres, au lieu de laisser parler au fond. Et dans ce livre sur les prostituées du Congo, il y a un parti pris d'écriture, me semble-t-il, comme dans l'autre d'ailleurs, qui consiste à donner la parole et à refuser font parfois une forme de lyrisme ou une forme de facilité de l'écriture qui consisterait à écraser cette parole des autres par l'autorité de la parole de l'écrivain. Notamment, les faire parler, c'est aussi utiliser leurs expressions, parler, leur donner en quelque sorte la parole. Et là, j'ai un exemple de ceci, c'est l'expression qu'elles utilisent pour parler de la prostitution, qui peut nous paraître étrange à nous occidentaux, mais au fond, est-ce que c'est pas encore rabattre sur nos propres valeurs, finalement, un discours qui est le discours de l'autre et qui a du sens en lui-même? C'est cette expression de faire la vie. Et j'aurais aimé que vous la commentiez à la fois librement et puis peut-être en lisant un extrait de votre texte qui l'évoque.
Au cours des premiers jours passés dans la cour du centre Asie, au milieu de ces filles, à échanger avec les infirmières, les éducateurs, l'assistant social, je vais souvent entendre cette expression « faire la vie ». Est-ce un congolisme ? Les premières fois, je ne pose pas la question, car la proximité avec « faire sa vie » ou « faire la fête » me donne l'impression d'en comprendre le sens. Ou « vivre sa vie », ou « partir à l'aventure », ou « faire la noce ». J'étais loin du compte, cela signifie « se prostituer ». Plus tard, j'apprendrai que le sens de l'expression est un peu plus large, qu'il en vient même à englober les formules que je connaissais, « faire la fête » par exemple. J'étais loin du compte ? Pas certain. Jean-Luc Godard tourne « Vivre sa vie » en 1962. Il y a Anna Karina, elle joue le rôle d'une jeune femme approchant la trentaine, peut-être moins. Ballottée par la vie, dans le Paris des années 60, elle en vient à se prostituer. Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Dès qu'on connaît le sujet de son film, le titre de Godard change de couleur et il devient terrible. N'importe quel spectateur rétorquera que ce n'est pas une vie ou que ça ne peut pas être sa vie, au sens de l'émancipation individuelle. Cette absence aux autres et à soi-même. Basculer dans la prostitution reviendrait à vivre sa vie. La liberté change de visage. Ta vie, cette charge, ce boulet à tirer jusqu'à la fin, cette potion à boire jusqu'à la lie. De manière sinistre, faire la vie fusionne avec vivre sa vie. Le mot vie contamine le verbe faire. La vie, ce virus. J'aurais donc pu deviner tout seul, ou soupçonner une entourloupe narquoise. Faire la vie, c'est faire l'amour. Laideur du verbe imposé par la langue française, si c'est pour parler de désir et de jouissance. Laideur du verbe, si c'est pour parler de cette vie qui devrait surgir et non se construire comme des Legos ou des Caplas. En fait, je reviens sur ce que tu disais. L'écriture et toute la création artistique en général, ça ne peut pas être un endroit où on va gagner en pouvoir sur les autres. C'est impossible. C'est-à-dire que quand je suis face à ces jeunes femmes et qu'elles acceptent de me parler, qu'elles me font une place, je ne peux pas derrière récupérer ces anecdotes, ces récits de vie, etc., et les faire mien. C'est pas possible. Je peux pas tout d'un coup m'en servir pour moi apparaître comme seul auteur du livre, par exemple. Il faut nécessairement que ce soit des livres coécrits d'une certaine manière. C'est-à-dire, il faut vraiment que tout d'un coup, alors que ces filles ne sont pas écoutées le reste du temps, eh ben que le livre soit au moins le moment où on va les écouter. Sera au moins le moment où elles pourront s'exprimer directement, sans que moi je remette ça à ma sauce ou sans que j'interprète plus que ça ce qu'elles me disent. Normalement, toute la création artistique se méfie toujours de toutes les prises de pouvoir, quelles qu'elles soient. Et que le but du jeu, derrière n'importe quel geste artistique, c'est au contraire de déconstruire ces pouvoirs-là, parce qu'il y a toujours quelque chose de toxique dans la plupart des formes de pouvoir. Et donc, je pense que la littérature et les autres arts sont là pour nous alerter en permanence sur cette toxicité-là, quoi.
Tout comme tu... Pardon, on n'est pas sous tutoiement. Hein, c'est, comme tu alertes en fait en permanence ton lecteur sur, par exemple, l'usage du français, l'usage de certains mots, l'usage du français, parce que c'est la langue au Congo, c'est la langue de la police, c'est la langue de la loi, c'est la langue du colonisateur. Et donc, au fond, quand on refuse ces assignations d'identité brutales, on est par exemple dans un bar à pute, l'expression lexicalisée, donc ce qui assigne un lieu à ces personnes. Au fond, on leur refait... En quelque sorte, on redouble la violence dont elles sont déjà victimes. Et il y a une expression que j'ai beaucoup aimée dans le livre, c'est « Je voudrais que le livre soit comme entre la gifle, j'essaie de me glisser entre la gifle et la joue. »
En fait, entre la main et la joue. C'est un livre qui ne porte pas tant que ça sur la question de la prostitution. Pourquoi ? D'abord parce que, en premier, c'est pas ça que les filles avaient envie de me raconter. Je me suis rendu compte au fil des séjours que ce qui revenait systématiquement, c'était plutôt leur histoire familiale. Et ça, c'était pas un problème parce que je voulais pas faire un livre sur la prostitution. Je sais même pas si au départ je voulais faire un livre. Donc il y avait quelque chose de très ouvert. Mais en fait, le vrai sujet qui m'est apparu, c'est la question de la langue. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle me parle ? Dans quelle langue elle me parle ? Donc en l'occurrence, elle me parlait en français puisque le Congolais dans le Congo dans la sphère francophone, elles naissent toutes bilingues. C'est-à-dire, elles ont le français très très rapidement et puis elles ont au minimum une des trois autres grandes langues du Congo : le Lari, le Kituba ou le Lingala. Des fois, elles sont trilingues. Là où je pensais que ça allait permettre une communication facile entre elle et moi, puisqu'il y avait cette langue en commun, je faisais preuve de naïveté en pensant ça, puisque évidemment, elle ne parle pas le même français que moi. Et en disant ça, je pense pas à à une forme de créole, je dis pas ça, mais puisque la France coloniale a transmis la langue française aux Congolais et aux Congolaises, obligatoirement, elle l'a transmise de manière intéressée et tordue. Et donc, par exemple, ce que j'ai compris au fil des séjours, c'est qu'elles n'ont pas du tout le vocabulaire de l'intime en français. Et donc, par exemple, quand je leur demandais « Mais est-ce que ce jour-là, quand tu as compris ça, est-ce que tu étais triste ? Est-ce que tu étais déprimé ? Est-ce que tu étais désespéré ?» Ben, ça, c'est des nuances que le colonisateur n'avait absolument pas besoin de transmettre aux colonisés. Ou alors, par exemple, ce qu'on me racontait, c'est l'expression de la négation, qui est en fait assez mal utilisée là-bas, parce que justement, enfin, d'une certaine manière, ils n'avaient pas la marge de manœuvre pour dire non, pour refuser, pour expliquer pourquoi ils refusaient, etc., etc. Et donc, je me suis rendu compte que là, il y avait quelque chose, un sujet qui me passionnait, parce que cette question de la langue était une façon d'entrer très concrètement dans leur situation de vie, etc. Et évidemment, si je me pose la question de la langue, et si je ne cherche pas à prendre le pouvoir sur ces jeunes femmes, je dois immédiatement me poser des questions sur ma propre langue française. Comment est-ce que je la parle ? Avec quelles intentions ? Et donc, quand j'écris dans les premières pages « barapute », Je dois immédiatement m'arrêter et me demander pourquoi est-ce que je trouve ça cool de marquer barapute ? Pourquoi est-ce que le mot me plaît à l'oreille ? Et en fait, il me plaît à l'oreille à cause de toute une littérature, il me plaît à l'oreille à cause de tout un cinéma, etc. etc. Et à ce moment-là, je me dis, mais non, mais ok, c'est plaisant à l'oreille, j'ai l'impression tout d'un coup de m'inscrire dans une sorte d'histoire, histoire littéraire, histoire des représentations, etc. J'ai l'impression de donner un tour un peu malfrat, un peu marin qui a vécu dans tous les ports, etc., à mon livre. Mais en fait, ce charme-là, je dois à tout prix me soustraire à ce charme-là. Je dois aussi, moi, faire un travail d'enquête sur ma façon de parler le français. De manière à me retrouver exactement sur un pied d'égalité avec elle. C'est-à-dire, de la même manière que j'essaye de comprendre comment elle me parle en français, qu'est-ce qu'elles arrivent à me dire et qu'est-ce qu'elles n'arrivent pas à me dire, je dois moi aussi essayer de comprendre qu'est-ce que j'arrive à dire en français et qu'est-ce que je n'arrive pas à dire en français. Et donc, c'est vraiment le sujet du livre, c'est devenu le sujet du livre, c'est ça. C'est non pas parler d'elle, parce que je ne peux pas affirmer beaucoup de choses les concernant, tout en ayant passé du temps avec elle. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est « Ah tiens, quand elle me parle en français, j'entends ça et ça, et quand moi je leur réponds, elles entendent ça et ça. » Essayer de vraiment de bricoler une sorte de pied d'égalité à l'intérieur de la langue française.
Qui est tout le contraire de ce moment qui m'a frappé où on voit cinq types qui arrivent, cinq personnes un peu lourdes là, des types qui sont dans le bar, qui sont des clients potentiels et qui commencent à plaisanter grassement, au fond sans se poser cette question de l'interculturalité et de la façon dont ils seront perçus. Ce qui me conduit à ma prochaine question, au fond, à travers cette violence subie, au fond, ce qui est posé constamment, c'est le statut de sa propre écriture. Et il y a une question que tu poses qui est la suivante. Est-ce que l'enquête sociale trahirait, entre guillemets, trahit la littérature ? Et tu y réponds, en fait, je trouve, dans un extrait qui, au fond, reprend un peu toutes les réflexions qu'on vient de faire.
Alors écrivain, je dois tendre l'oreille pour distinguer tristesse de désespoir dans ce que me confie Chloé, ou pour comprendre que le mot joie est un peu trop large pour ramasser ce que me confie Rosine. Certains penseront que ce compagnonnage avec Asie fait de moi un travailleur social. Je m'éloignerai de la littérature. Pourtant, à me demander si c'est l'adjectif stressé qui décrira précisément Mercia, ou si c'est angoissé que je dois utiliser, je suis au plus près de la vibration qui a nom littérature. Les mots ne se valent pas, ils renvoient tous à des mondes différents ou à différentes formes de présence au monde. Le stress concerne la peau, c'est l'électricité produite par le frottement du monde sur mes vêtements ou ma peau nue. L'angoisse, c'est bien après, bien au-delà. La peau peut l'ignorer, ne pas être au courant. Un exemple. Parce qu'il n'y a rien que j'aime plus que les convivialités amicales, je passe, à mes propres yeux au moins, pour quelqu'un de vivant. Mon corps et sa façon d'être animé, il rit trop bruyamment par exemple, malgré les demandes que je lui adresse régulièrement, quémandant un soupçon de discrétion, auront masqué efficacement, à mes propres yeux en tout cas, la possibilité d'un désordre fondamental, d'une inquiétude face à la vie. Je dirais que Mercia est angoissée sans être le moins du monde stressée. Je crois qu'elle le sait, comme si tout en vivant des choses affreuses, elle n'avait pas accédé au sentiment tragique de l'existence. Ça n'est pas une nécessité de fait. Je m'en suis merveilleusement passé jusqu'à mes 35 ans, ou 37 ou 41, et ne me sens pas plus fort d'être plus lucide. La jeunesse est la seule chance.
Alors, cette histoire de la violence qui est faite à ces très jeunes femmes, elle est aussi l'histoire d'une violence plus générale qui est celle d'un pays comme le Congo qui a été le théâtre de nombreuses guerres civiles et qui fait que ce sens de l'individualité, peut-être cette inaptitude à exprimer le plus intime, tout simplement parce que jamais cet intime-là n'a eu sa place. Pour ces jeunes femmes qui ont souvent été dès l'enfance maltraitées, tu évoques par exemple les recompositions familiales, le fait que souvent les enfants d'un premier lit sont renvoyés ou jetés à la rue. Et bon, jetés à la rue, on sait pour une jeune femme malheureusement ce que ça peut être. Il y a un moment de témoignage de Dominique Anouilh qui rappelle ces guerres civiles sans procès, c'est-à-dire sans travail de mémoire en fait, autour de la violence auxquelles elles ont donné lieu, sans gassassa comme ça a été le cas au Rwanda, et ce moment-là en fait relie une violence collective, une violence de la société en général à la violence faite à ces très jeunes femmes. Est-ce que Bon, il y a, bien sûr, j'ai songé à un extrême. Je vois que le temps passe. Est-ce qu'on peut gloser un peu ce...
Nommer, on le sait, dans les processus judiciaires, le fait d'être désigné victime officiellement par un tribunal, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas désigné victime, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est désigné coupable, les victimes ne peuvent pas se relever. Donc il y a un pouvoir du mot, un pouvoir du nom incroyable dans ce contexte-là. Mais en fait, ce pouvoir-là, il existe aussi justement de manière plus large dans la littérature, quoi. C'est-à-dire justement accompagner cet effort de description du monde, faire cet effort-là. C'est-à-dire arriver à décrire la violence qui est faite à telle ou telle personne quand les mots disparaissent, quand les noms disparaissent. C'est vraiment à cet endroit-là que la littérature est certainement au plus aigu, à l'endroit le plus brûlant où elle puisse se tenir. Quand les mots font défaut et quand on décide de suppléer à ce défaut en essayant de les retrouver, ces mots-là, en essayant de nommer enfin les choses. Donc là, pour ces femmes congolaises qui, effectivement, en 93 et en 97, il n'y a pas du tout eu de tribunaux, donc elles n'ont jamais, il n'y a jamais personne, aucune instance officielle qui leur a dit « Oui, vous avez bien été victime de viol, et oui, c'est inadmissible, oui, c'est inqualifiable, et oui, si on pouvait rattraper vos violeurs, il faudrait qu'ils soient condamnés. » Ça n'a pas eu lieu. Et donc, cette violence-là sur les victimes continue d'être dans l'air absolument partout, parce qu'il n'y a pas un nom qui a été fixé sur une chose. Et pour les criminels, pour les violeurs, eux, au contraire, un sentiment d'impunité absolument incroyable, quoi. Et il me semble que la littérature est vraiment à sa place quand elle essaye de répondre à l'absence des mots, à l'absence des noms. Et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire avec La Creuse, quoi. C'est-à-dire que l'ordre économique néolibéral, avec la sous-traitance, etc., fait que les entreprises changent sans arrêt de nom, elles passent de main en main, etc., et qu'il devient très très difficile de nommer une entreprise ou de nommer les salariés en disant « voilà, tu appartiens à telle entreprise, ah ben non, ça c'était il y a 2 ans, maintenant la boîte s'appelle autrement, etc. » Donc et là aussi, il y a un effort qui est fait pour faire disparaître les mots, pour faire disparaître les noms, pour les vider de leur sens, et je crois que, encore une fois, même s'il ne s'agit pas d'un engagement militant, je crois que la littérature est à sa place quand elle essaye au contraire de redonner son vrai sens, comme disait Mallarmé, aux mots de la tribu, quoi, au patrimoine commun, à cette langue qui nous permet d'échanger, de nous comprendre, d'essayer de réinvestir ces mots-là que certains essayent de vider complètement de leur sens.
Si je peux me permettre d'ajouter par rapport à ces questions de témoignage, de mémoire, notamment de la vie de ces femmes, vous avez dit que c'était important, que le plus grand honneur que vous pouviez leur faire, c'était de les montrer comme elles étaient, pas simplement de leur vulnérabilité. Donc vous n'avez pas utilisé que la littérature, excusez-moi, comme médium. Vous avez également utilisé la photographie. Et sur le mur, donc, à votre droite, nous avons une exposition qui est tirée des photographies, des clichés que vous avez pris lors de cette expérience au Congo et qui fait écho au livre que vous avez coécrit, donc « Faire la vie ». Donc cette façon aussi de montrer autrement que par les mots, également par la photographie, ce que sont ces femmes.
Oui, tout à fait. En fait, je vais le raconter très très vite. J'ai fait plusieurs séjours et toutes ces photos ont été prises l'avant-dernier jour de mon dernier séjour à leur demande. C'est-à-dire c'est elles qui, cette fois-là, contrairement à tout ce que j'avais pu faire les semaines précédentes, c'est elles qui m'ont demandé à être prises en photo. Donc elles ont posé. Et ça s'est fait très vite et sans réfléchir, si bien que je pense qu'elles ont été aussi surprises que moi par le résultat. Elles se sont vues très belles sur ces images-là, et de fait, elles le sont toutes, là, c'est qu'une petite sélection. Et il y avait ce truc incroyable du mur blanc derrière, qui est un réflexe tout bête, c'est-à-dire, moi, je prenais le mur blanc pour que, justement, le corps, les visages, les expressions, les vêtements se détachent bien, etc., qu'il n'y ait pas quelque chose qui vienne perturber. Et en fait, ça ressemblait tellement, tellement à la page blanche qu'il leur reste à écrire, quoi. C'est-à-dire que, dans tous les entretiens que j'avais fait, on avait parlé de leur passé, et il y avait quelque chose qui pouvait, pour certaines d'entre elles, être trop douloureux, justement, de revenir sur les violences qui leur avaient été faites. Et que là, dans la photo, tout d'un coup, on était en train de d'indiquer un futur, quoi, d'indiquer ouais, une page blanche à remplir. Et donc, je pense qu'elles l'ont compris aussi vite que moi, ou peut-être même encore plus vite que moi. Et, et c'est ça qui a fait de cette journée et de ces images quelque chose de spécial. Parce que de manière très intéressante, pendant 3 ans avant, je passais mon temps à les photographier. Et il n'y a aucune de ces photos-là qui se retrouve dans le livre. Ce sont toutes des photos nulles, tout le temps. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose, voilà, de très particulier, qui a à voir avec la confiance qu'elle me faisait, etc. Elle savait que mon regard n'était pas un regard déplacé, n'était pas un regard où je les érotisais, comme peuvent le faire les clients, etc. Et donc, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui pouvait se libérer. Elle pouvait se retrouver à nouveau un petit peu souveraine. Elle pouvait redresser la tête et puis avoir un regard de défi. Alors que le soir, quand elles ont un regard de défi, elles se prennent une torgnole immédiatement. Donc là, ce jour-là, il s'est passé quelque chose de beau et qui, résultat, ne vient pas juste illustrer mon livre, mais presque faire un contrepoint, quoi. C'est-à-dire, dans le livre, c'est plutôt la partie accablée de la vie de ces jeunes femmes, alors que là, dans le livre de photos, c'est au contraire presque à nouveau des jeunes femmes qui osent être à nouveau un peu solaires, un peu... récupérer du terrain sur tout ce qui leur a été retiré.
C'est vrai qu'on sent une gaieté, en réalité, dans ces photos. Et il y a un épisode dans le livre qui m'a frappée. C'est celui où une jeune femme, en fait, arrive à l'Asie. Elle s'est fait frapper par son compagnon, qui est son souteneur, qu'elle appelle son love. Et elle arrive avec un cocard, à moitié amoché. Et les autres, au lieu de faire preuve de compassion, rient. Et on sent à un moment donné ta colère. Et il y a cette réflexion, finalement, si je montre ma colère, je projette mes valeurs d'occidental et je choque en réalité. Donc, il faut toujours tenir compte d'un contexte qui est tellement différent. Parce que montrer de la gaieté, c'est peut-être aussi encourager cette femme qui, de toute façon, dans l'immédiat, en tout cas, ne quittera pas cet homme qui la frappe. Il faut l'aider à vivre, tout simplement.
Oui, j'ai été très surpris par leur réaction, par la réaction des copines, le jeu que j'ai trouvé très violente sur le moment, que j'ai trouvé vraiment très déplacé. Et en fait, je me suis tu. Parce que j'étais tellement surpris que je me suis dit immédiatement qu'il y avait quelque chose qui m'échappait, qu'il y avait une motivation, un raisonnement qui m'échappait. Et en fait, ça, c'est des moments incroyablement heureux dans une vie quand tout d'un coup, on prend les autres au sérieux, quoi. Et donc là, j'ai décidé ce matin-là de prendre les filles au sérieux, de me dire elles savent ce qu'elles font et elles le savent mieux que moi. C'est elles qui vivent cette vie-là. Et donc, c'est à moi d'essayer de les rejoindre et non pas à elles d'aller dans mon sens, quoi. Et donc ensuite, l'après-midi, quand j'ai enquêté pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, ce qui était en jeu, j'ai été très surpris par les réponses des filles et qui étaient effectivement, en fait, des réponses en empathie. Moi, j'avais l'impression qu'elles se comportaient comme des harpies, alors qu'en fait, elles avaient à cœur d'essayer de l'aider à pas sombrer et à reprendre pied dans la journée plutôt qu'à rester dans la nuit et de ce qu'elle avait vécu cette nuit-là, quoi. Et ça, en fait, donc c'est une sorte de je m'en suis rendu compte en écrivant ce livre que la question de l'universalisme français était une question qui était complètement hors de mon regard jusque-là. Et en fait, j'ai compris que ces séjours au Congo m'amenaient à interroger cette question-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on vit vraiment la même chose sous toutes les latitudes? Est-ce que vraiment il faudrait qu'on pense tous pareil? Est-ce qu'il faudrait que cette baffe qu'elle a reçue ait la même valeur qu'une baffe en France? Non, c'est plus compliqué. Et je continue, je creuse ce truc-là dans l'écriture, c'est-à-dire que... considérer qu'une jeune fille de 14 ans qui a arrêté ses études à 10 ou 12 ans, qui est dans une mouise colossale, qui dort dehors, qui a peut-être déjà un enfant, deux enfants, considérer qu'elle sait mieux que moi ce qui est bon pour elle. Et ça, c'est très très fort parce qu'en fait, normalement, moi, du haut de mes 45 ans à l'époque, j'aurais très bien pu, au contraire, dispenser des conseils en permanence, quoi. Par exemple, il y a une scène qui m'a semblé très forte sur ce plan-là, c'est je discutais avec une jeune femme qui n'a plus vu sa mère depuis qu'elle a l'âge de 8 ans. Quand elle a eu 8 ans, sa mère est partie vivre ailleurs. Je lui demande, est-ce que tu voudrais la revoir? Et elle me dit oui, mais je n'ai pas l'argent pour le train et je n'ai pas l'argent pour les cadeaux. si on avait été en Europe, j'aurais immédiatement répondu à la jeune européenne, j'aurais dit, mais oublie l'argent des cadeaux, trouve déjà l'argent du train, et ce sera déjà magnifique. C'est-à-dire, ta mère sera heureuse, ou enfin bref, en tout cas, il se passera quelque chose. Mais sauf qu'en fait, je me suis tué, là encore, comprenant que si elle me dit ça, c'est qu'il est impossible au Congo qu'un enfant se pointe devant son père ou sa mère sans cadeau. C'est comme ça, c'est-à-dire que le statut des parents au Congo n'est pas le même qu'en France. Il n'est pas moins bien, il n'est pas pire, il est juste autre. Et donc, je ne peux absolument pas lui donner ce conseil-là. Si je lui donne ce conseil-là en pensant que j'ai raison, et en pensant que parce que je suis européen, le monde entier devrait réagir de la même manière, en fait, je l'envoie au casse-pipe. C'est-à-dire que sa mère est capable, voyant sa fille arriver sans cadeau, sa mère est capable de refuser de la recevoir, par exemple. Ce qui serait pour la jeune femme, une catastrophe, mais foudroyante, quoi. Une deuxième fois repoussée, une deuxième fois rejetée, une deuxième fois abandonnée. Et là, je serais responsable de ça, quoi. Ce serait pas cette femme, ce serait bien moi, quoi. Donc, voilà, prendre au sérieux toutes les formes de vie, prendre au sérieux toutes les personnes, quel que soit leur parcours de vie, supposer toujours qu'il y a de l'intelligence derrière.
Mais justement, est-ce que le livre serait pas une tentative de considération de l'autre dans sa réalité? Sans, enfin, essayer d'apporter le moins possible votre jugement sur les croyances que vous pouvez avoir, parce que là vous parlez des cadeaux, mais il y avait aussi tout ce qui était par rapport le rapport à la sorcellerie, où il y a vraiment eu un décalage culturel pas incroyable.
Exactement, c'est exactement ça. Donc, et vous avez raison avec la sorcellerie, par exemple. Je fais un premier séjour où il n'est jamais question de la sorcellerie, il n'est jamais question des esprits, etc. Deuxième séjour, 3 mois plus tard, je reviens et c'est seulement à la toute fin du deuxième séjour, alors que donc il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Nancy, avec qui d'emblée j'ai beaucoup beaucoup parlé, parce que d'emblée elle a décidé qu'elle pouvait me faire confiance, je sais pas quoi. Donc elle m'a pendant le premier mois du premier séjour et le deuxième mois du second séjour, c'est elle qui m'a aidé à décrypter beaucoup beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup beaucoup de trucs. Donc il y avait une complicité, en plus elle est très drôle, très vive, c'était assez fantastique. Et j'avais pu mesurer au fil des 2 mois que Nancy est une fille vive et intelligente, quoi. Et là, tout d'un coup, elle me parle des hommes sirènes qui la nuit sortent de l'océan pour venir lui manger son âme. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Pareil, je me le garde pour moi. Mais vraiment, sur le moment, je dis, oula, moi qui te considérais maligne, etc., là, oulala, qu'est-ce que tu racontes? Sauf que oui, c'est exactement la même chose. Pourquoi est-ce que... alors oui, c'est un peu trop spectaculaire, cet exemple-là donné par Nancy, des hommes sirènes qui sortent de l'océan pour lui manger son âme. Mais en même temps, elle me raconte une scène dans une voiture avec des hommes qui allaient s'avérer ultra-violents. Pourquoi est-ce que sa lecture de cette violence-là, pourquoi est-ce que sa lecture ne serait pas la bonne? Moi, je vais faire, en européen, je vais faire une lecture très rationnelle de la chose. Je vais dire, elle est juste tombée sur 2 criminels, ils ne sortaient pas de l'océan, c'était juste des salopards et qui lui ont fait violence parce qu'ils éprouvent leur pouvoir sur plus faible. Mais en fait, pourquoi est-ce que mon récit serait plus pertinent que le sien? Et qu'est-ce que ça change en fait au bout du compte? En fait, au bout du compte, ça change une chose que je trouve assez passionnante, c'est que tout d'un coup, la description du monde n'est plus du tout la même, quoi. Et la grande différence entre les deux, c'est que toutes les parties du monde en Afrique centrale, quand il y a comme ça une tentative de description du monde, des rapports entre les gens, de la présence des esprits, etc., le monde est 100 fois plus habité que le nôtre. Et ça, moi, je trouve ça absolument fascinant. Je me suis pas lancé dans une enquête sur la sorcellerie. C'est beaucoup trop compliqué. Ça suppose un temps infini, etc. Et puis il y a plein d'anthropologues pour faire ça et tout. Mais par contre, j'étais heureux de finir le livre sur ces questions-là pour vraiment montrer jusqu'où j'avais envie de pousser le curseur, quoi. C'est-à-dire de dire. Non seulement je me rends compte qu'elles sont hyper intelligentes et que c'est la plupart du temps c'est elles qui ont raison, mais en fait j'ai envie de le pousser jusque là aussi. Rien ne me dit que sur les 2 chaises qui sont libres là, il y a pas des esprits. Non mais pour de vrai. Alors vous avez l'impression que vous me voyez sans obstacle, mais c'est parce que c'est des esprits. Mais il y a peut-être quelqu'un. Ouais.
Merci. Alors, cette intelligence des gens, ou cette intelligence haute, cette manière autre de percevoir le monde, on la retrouve aussi dans le livre « Ceux qui supportent », dans cette manière de s'emparer au fond de son propre destin au moment même où on essaie de fermer cette usine, de mettre les gens à la porte, de les jeter littéralement à la rue. Alors, tout d'abord, le lieu La Creuse, je crois que Mélie souhaitait en dire un mot de la Creuse, cette diagonale du vide, là où précisément les médias ne mettent jamais les pieds.
Ouais, parce que je viens de cette région, donc à trois quarts d'heure de la Creuse, où nous, vraiment, c'est donc la diagonale du vide, où il n'y a plus du tout ce qui est soins médicaux ou même les industries. Et que ce combat-là, justement, il est vachement important, ne serait-ce que pour l'attractivité du territoire. Et moi, j'ai vraiment l'impression que avec les puissants qui sont tous situés au même endroit, ils saisissent pas les enjeux justement d'un tel combat sur les régions aux alentours. Et c'est comme s'il y avait une connivence de tous les puissants, là que ce soit l'État, mais aussi les grandes entreprises, justement où ça allait faire une dévalorisation, puis même une sous-représentation en fin de compte dans les médias. Et c'est là où justement la littérature, est-ce que vous pensez qu'elle est là pour venir sur-représenter afin d'apporter
Je vais vous répondre, mais d'abord une chose pour faire la transition entre le Congo et la Creuse, parce que là, c'est un peu violent le passage de l'un à l'autre. Mais il se trouve que justement, le Congo m'a rendu la Creuse possible. C'est-à-dire que le Congo marque vraiment dans mon parcours à moi c'est un seuil. Jusque-là, à chaque fois que je devais faire des entretiens, rencontrer des gens, etc., je faisais ça vraiment à contre-cœur. J'avais pas envie, j'étais pas à l'aise, j'étais pressé de rentrer chez moi. Au Congo, l'intérêt, c'est que j'étais coincé. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais sur place, j'étais là. L'ONG savait que j'étais là pour ça, donc je passais vraiment mes journées intégralement là. J'ai pas du tout fait de tourisme, etc. J'ai appris à écouter. J'ai appris à recueillir la parole de quelqu'un, j'ai appris à être précautionneux et très scrupuleux avec la parole de quelqu'un, c'est-à-dire à me dire, ben non, mais elle l'a dit comme ça, je peux pas transformer trop sa phrase, en fait, ou si je la transforme, il faut vraiment que je fasse attention à la façon que je vais avoir de la transformer. S'il n'y avait pas eu le Congo, j'aurais sans doute pas été capable de faire ce travail d'écoute en Creuse avec ces ouvriers-là. Alors que voilà, évidemment, le gap culturel est moins fort, c'est-à-dire qu'il y a moins de différence entre ces ouvriers creusois et moi qu'avec les filles du Congo. Mais voilà, l'un m'a permis l'autre. Je trouve ça je trouve ça très décolonial de dire que c'est grâce au Congo que j'ai pu entendre et comprendre les creusois. Ensuite, vous dites, voilà, est-ce que c'est pour répondre à cette sous-représentation de territoires un peu perdus de la République ou d'ouvriers, c'est-à-dire de gens qui sont méprisés, snobés par les puissants? Oui, en quelque sorte. Alors, c'est résumé un petit peu vite, mais en quelque sorte. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Je les rencontre. Je les trouve incroyablement pertinents, intéressants. Ils m'apprennent beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je suis très enthousiaste. Je me mets à leur service. Je me dis, OK, je vais raconter votre histoire. Je vais essayer de la transporter dans le milieu culturel, le milieu littéraire, de manière à ce que vous gagniez en audience, quoi, d'une certaine manière. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cet élan positif. Il y a aussi un élan négatif. C'est-à-dire que ce sont aussi les années où, comme ils se battent, des politiques... se mettent à parler très très mal d'eux, mais des phrases incroyables. Par exemple, le président de la République a dit d'eux qu'ils étaient des fouteurs de bordel. Au moment où il dit ça, en 2017, je suis en train de parler avec eux sur la proposition de loi qu'ils ont écrite en utilisant leur temps de chômage. Ils ont écrit une proposition de loi qu'ils ont ensuite, pendant 2 ans, 3 ans, essayé de porter à l'Assemblée nationale. Pardon, mais ce n'est pas exactement ma définition du fouteur de bordel. Je veux dire, un fouteur de bordel, stricto sensu, ce n'est pas quelqu'un qui écrit un projet de loi, quoi. C'est pas quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui met le feu à une préfecture, par exemple. Mais pas, ouais. Et donc, j'ai à la fois envie de me mettre à leur service, parce que je vois que ce sont des belles personnes, valeureuses, pertinentes, etc. Et j'ai aussi envie de répondre à ces mots-là, quoi. J'ai envie de faire une contre-description. Ils sont décrits comme ça par certaines personnes, et ben moi je vais juste dire, bah tiens, moi c'est bizarre parce que les mêmes personnes, je les ai sous les yeux et c'est pas ça. J'ai d'autres adjectifs à mettre, j'ai un autre élan à décrire, etc. Donc voilà, il y avait cette double motivation. En sachant que pour moi, le véritable enjeu, c'était d'abord l'élan positif, c'est-à-dire, j'ai pas fait une adresse à Emmanuel Macron, je m'en fiche d'Emmanuel Macron. Ce que je veux, c'est montrer à quel point ces gens-là sont intéressants et par certains côtés vraiment magnifiques.
Et précisément, en fait, le livre commence par la description de parcours individuels. Et je trouve entre autres remarquable le parcours de Stéphane. Voilà, le texte est peut-être un petit peu long, donc bon à voir si on le lit intégralement. Voilà, je te laisse arbitrer.
C'est pas simple de couper.
C'est pas simple, oui, de couper, c'est un peu...
Pourquoi donc Stéphane Ledormand, qui a une petite cinquantaine et qui fait partie de ceux qui ont perdu leur boulot donc en novembre 2017. Mais au moment où je l'interroge, il n'a pas encore reçu sa lettre de licenciement. Et on reparcourt avec lui toute sa vie professionnelle. Pourquoi travailler la nuit quand on sait tout ce que cela détruit à côté, dès qu'on n'est plus synchrone avec sa compagne ou son compagnon, avec ses amis et ses enfants ? Parce que la nuit était mieux payée que le jour. Quand t'es intérimaire, t'es précaire comme pas possible. Je vous ai dit, mes contrats étaient renouvelés ou non tous les vendredis. La logique pour nous, c'est de travailler le plus possible pour gagner le plus d'argent possible. Comme ça, on a l'impression d'éloigner de nous un peu la violence que ça serait la fin du contrat. C'est un cercle vicieux. Si tu gagnes 1000 euros par mois en travaillant dans la journée, celui qui embauche le soir et travaille la nuit gagne à peu près 1350 euros. La différence est de cet ordre. Je demande à Stéphane si ces 350 euros supplémentaires sont le prix de la vie sociale et amoureuse qu'il pourrait avoir en travaillant de jour, mais ni lui ni moi ne pouvons répondre à cette question. Ce silence entre nous est à la fois beau et déstabilisant. C'est en tout cas la seule façon de répondre au stress de la précarité, me dit Stéphane. Ensuite, on va lui proposer de prendre en charge une presse de 630 tonnes. Il s'agit de remplacer un intérimaire qui n'a pas fait le boulot, augmentant ipso facto le SMED de la machine, c'est-à-dire son temps de changement référence. Toute la production était décalée. Quelqu'un a dit au chef de cette équipe « Prends Stéphane Ledormand si tu veux corriger ça ». Et de fait, Stéphane fera baisser le SMED à force de rigueur et de concentration. À l'époque, il travaille de jour mais il embauche à 5h du matin en semaine A et quitte l'usine à 12h30 quand il embauche à 12h30 en semaine B pour terminer à 20h. Ce n'est pas évident. On accepte ce rythme par dépit et non par choix. Quand tu travailles de 5h du matin à 12h30, tu tiens jusqu'au mercredi. Mais ensuite, tu fais la sieste après le repas, en veillant à ne pas te décaler complètement. Durant cette période, je travaillais souvent le week-end aussi, pour des boulangers ou des pâtissiers. Le vendredi, je quittais l'usine de la souterraine à 20h et j'embauchais à 23h pour travailler jusqu'à 13h le lendemain. La santé de Stéphane commence à flancher. Il n'a que 26 ans, mais fait déjà de l'hypertension. C'est la précarité qui amène ça. Un de ses collègues va réagir. Va voir le chef de service de presse, il embauche, lui. Voilà.
Oui, effectivement, ces parcours individuels sont une sorte de réponse non seulement à l'indifférence, mais à une indifférence destructrice des patrons successifs qui n'ont qu'une idée, au fond, c'est de liquider la boîte. Ce que tu résumes, je dirais, page 78-79, par cette terrible expression à la fois entrisme et baston. Voilà, si on veut résumer ce désastre, entrisme et baston. Et c'est non seulement une chute programmée dont les étapes sont détaillées, mais aussi c'est l'histoire finalement d'une spoliation légale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un des employés, Christian Durand, découvre, à l'occasion du non-versement d'indemnité maladie, que jamais l'entreprise, par rapport à ce que lui a versé l'État, n'a reversé à Bercy les cotisations URSSAF qu'elle devait. Et ce qui est montré donc ici, c'est véritablement un scandale légal, mais non réprimé par la loi. Alors est-ce que Bercy s'est naïvement ou délibérément assis pendant 3 ou 4 ans sur ces cotisations-là? Comment se fait-il que un simple artisan soit immédiatement traduit au tribunal quand il ne verse pas ses cotisations URSSAF et que cette entreprise bénéficie en quelque sorte d'une impunité totale?
Oui, de manière plus générale, en fait, ce livre, c'est aussi on peut le décrire aussi comme une espèce d'enquête sur les patrons voyous qui font ça avec la connivence de l'État. Là, en l'occurrence, effectivement, pour Bercy, il était tout à fait possible de négocier l'absence de, pendant 4 ans de ces cotisations qui n'avaient pas été versées par la direction. C'était pas un problème. Les patrons, en l'occurrence, n'ont pas été derrière les barreaux. Je voulais à tout prix décrire, avec l'aide des GMS, je voulais à tout prix décrire cette situation-là de connivence de l'État avec des patrons qui, en fait, siphonnent les finances des boîtes qu'ils rachètent. Et pourquoi ? Pour mettre ça en contraste justement avec, au contraire, le portrait de ces ouvriers durs à la tâche, scrupuleusement honnêtes, obsédés par leur honnêteté et par la légalité. Donc montrer qu'il y a vraiment un décalage, au moins dans leur histoire, j'en fais pas une règle générale, mais au moins dans leur histoire, un décalage fou entre ces ouvriers honnêtes et ces directions successives entre qui se succèdent entre 2000 et 2017 et qui systématiquement trouvent un nouveau moyen pour vider les caisses de la boîte. Par exemple, il y a ce truc que je trouve incroyable et qui est le plus simple de toutes les arnaques que je raconte, c'est la plus simple à comprendre. À un moment, il y a deux hommes et une femme qui rachètent l'entreprise et qui immédiatement vont faire une opération qui, elle, est effectivement légale, c'est-à-dire ils vont dissocier le foncier, les murs, le terrain, de l'activité commerciale. Et donc ils vont demander à l'activité commerciale de l'usine de verser un loyer pour le foncier. Et donc ça veut dire que tout d'un coup, dans les comptes de l'entreprise, il faut que cette entreprise, tous les mois, sorte 42 000 euros en versement de ce loyer. Mais avant, elle n'avait pas à faire cet effort-là. Donc avant, c'était de l'argent, en grande quantité, qui était immédiatement mis dans les nouvelles machines, qui était mis dans l'augmentation des salaires pour suivre le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie, etc. etc. Et donc là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui est possible. On ne peut plus acheter de nouvelles machines, on ne peut pas renouveler le stock, etc. On est obligé de parer en permanence au plus pressé. Et donc, ça veut dire que 2 ans après, 3 ans après, la boîte, elle vaut plus grand-chose parce que justement, les machines sont trop vieilles, elles sont trop usées, etc. etc. Donc, ils ont été en permanence comme ça agressés par des sortes de vautours quoi, qui se jetaient sur la bête un peu malade et qui la dépeçaient toujours un petit peu plus quoi. Là aussi, par rapport à des descriptions de ces hommes et de ces femmes qui sont des descriptions violentes et malhonnêtes quand on dit voilà ceux qui ne sont rien, des phrases comme ça qui sont des phrases d'une violence pas possible, ou alors les Gaulois réfractaires, ben oui, mais il faut quand même regarder pourquoi ils sont réfractaires. En fait, je veux dire, la dernière aide publique touchée par l'entreprise, c'est 8 millions d'euros, c'est un nouveau prêt accordé par Bercy. Cette aide tombe, est décidée la même semaine où le fisc, c'est-à-dire l'étage en dessous du même bâtiment, quoi, dans le ministère à Bercy, où le fisc lance une enquête fiscale contre les patrons de cette boîte. Mais comment c'est possible, en fait ? Comment on peut lancer une enquête fiscale quand on lance une enquête fiscale, c'est qu'on a déjà toutes les preuves pour dire qu'il y a vraiment un gros problème. Et en même temps, donner aux mêmes personnes, prêter aux mêmes personnes 8 millions d'euros sans contrepartie, sans exiger rien, etc. Donc c'est décrire ces choses-là et à côté, décrire les angoisses de ces hommes et de ces femmes qui se retrouvent au chômage et qui veulent continuer quand même à payer leurs impôts et qui veulent continuer quand même d'être utiles à la société, etc. etc. Il y a un décalage qui me semble complètement fou. Et là, j'avais cette chance-là de pas tenir un discours idéologique. C'était que des preuves. C'est-à-dire que le livre donne des tas de chiffres, donne des dates, etc., pour essayer vraiment de montrer que c'est pas une affaire de militants de gauche. Je répète en permanence depuis que le livre a été publié que j'aurais pu être de droite et écrire le même livre. Non, mais je suis vraiment sérieux.
Absolument, parce qu'il y a une factualité qui est indiscutable. Enfin bon, et les politiques eux-mêmes, à un moment donné, le savent. Ils ont la trouille. Ils perçoivent bien que ce qu'ils font n'est pas honnête et se réfugient dans la peur ou une espèce de vague mauvaise conscience. Il y a un épisode qui est très intéressant, c'est celui des négociations qui devraient se mener en fait au ministère du Travail et qui sont délocalisées dans un hôtel Ibis. Et là, tout d'un coup, les ouvriers prennent conscience à la fois de leur puissance et du fait qu'ils ont été floués. Et c'était un extrait du livre qui se trouve page 69.
Et donc là, c'est Vincent Labrousse qui s'exprime, qui est une sorte de leader. Il veut pas du tout de ce mot-là, mais c'est un petit peu ça. C'est avec ce genre de détails que tu mesures la puissance qu'on peut avoir. On est une délégation de 7 personnes et ils ont peur de nous. Oui, la peur qu'ils ont du peuple, il faut en avoir conscience. Alors, ok, Bruno Le Maire est au-dessus de l'Atlantique à l'heure où je reçois ce texto pour un vol en classe affaires, mais c'est bien nous qui avons le pouvoir. C'est eux qui ont peur de nous. Refuser l'entrée du ministère à des citoyens, dans un lieu pourtant blindé de flics, ils ont tellement peur qu'ils préfèrent privatiser l'Ibis plutôt que de prendre le risque de voir à nouveau des citoyens très ordinaires leur apprendre la vie. À l'endroit même où tout le monde tremble dès qu'ils toussent normalement. Où ceux qui tremblent et obtempèrent ne doivent surtout pas découvrir que le roi est nu.
Et on voit bien ici que, au fond, le crime suprême, c'est l'indifférence. L'indifférence à la fois des repreneurs de l'usine et celle des politiques. Et face à cela, bon, il y a évidemment l'action, il y a évidemment ce projet de loi qui est un épisode extraordinaire, parce qu'au moment même où on insulte ces personnes, où on dit que ce sont des fouteurs de bazar, ils sont là à tenter de trouver une solution concrète et à se dire finalement les externalités négatives du point de vue environnemental que crée l'industrie, aujourd'hui, ces externalités sont punies par la loi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire de même pour ce qui concerne les sous-traitants qui, tout à coup, ne sont plus sollicités par de grosses entreprises comme Renault, Peugeot ou d'autres pour ce qui concerne les pièces automobiles, puisque c'est bien ce que fabrique cette usine. Et alors, il y a des moments de colère, il y a des moments d'action, mais il y a aussi des moments de tristesse. Est-ce que c'est compliqué de dire la vulnérabilité de ces gens, de ce milieu qui est un milieu essentiellement masculin quand même, même s'il y a deux ou trois femmes qui prennent la parole dans le texte. Est-ce qu'il y a une forme de pudeur? Comment est-ce que tu as...
Non, c'est une affaire de choix. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, sur les... D'accord. C'est une affaire de choix, c'est-à-dire depuis 15 ans, avec toute la désindustrialisation du pays, il y a eu beaucoup, beaucoup de documentaires qui ont été tournés sur des usines qui ferment, beaucoup. Là, j'en ai vu un sur les fonderies du Poitou cette semaine. Il y en a un sur la fermeture du site d'Aulnay, qui était un énorme site de Peugeot. Et à chaque fois, ce sont toujours des défaites. C'est-à-dire c'est toujours des usines qui ferment, donc avec le lot d'angoisse qui est filmé par les documentaristes et où on voit des ouvriers pleurer, où on les voit sans solution, se battre, mais au final perdre quand même, etc. Et donc, c'est une affaire de choix. Moi, je voulais à tout prix montrer des gens qui se battent et je voulais pas mettre l'accent sur ce qui va être perdu, c'est-à-dire là l'usine n'a pas fermé mais quand même on n'en est pas loin du tout, mettre l'accent sur ce qu'ils ont réussi à faire ensemble, c'est pour ça que c'est un livre en fait qui est assez optimiste si on le lit un peu vite, parce que justement ce que je cherche à montrer d'abord c'est la joie de se battre ensemble. Ce qui est quelque chose qui est rarement montré, pareil, aux journaux télévisés, même rarement montré des fois dans les documentaires. C'est-à-dire que dans les documentaires, comme il s'agit de questions politiques graves, on met l'accent sur la lutte, la colère, tout d'un coup quelqu'un dans une foule qui se met à hurler, etc. Voilà, des images comme ça, dures. Mais il y a toujours, dans tous les combats sociaux, il y a toujours aussi cette dimension de joie. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, on arrête de faire tourner l'usine, on découvre ses collègues, on leur parle autrement, on leur parle plus tranquillement, on apprend à les connaître. Surtout, on met en commun tout ce que l'on sait. Et donc, il y a de l'intelligence qui se fabrique là à toute vitesse dans les combats sociaux. Dans les manifestations, par exemple, quand les manifestations ne sont pas trop encadrées, quand ça peut virer à la manifestation sauvage, là aussi, c'est toujours hyper joyeux. Et donc, moi, ce que je veux, c'est ce que je voulais pour ce livre, c'était ça. Plutôt que montrer les larmes des ouvriers, je voulais à tout prix montrer d'abord donc des gens de valeur, des belles personnes, mais aussi montrer justement tout ce que produit le combat social. Pas simplement ce qui va être perdu, mais ce que produit le combat social. Et en fait, ce sont des gens qui se sont révélés à eux-mêmes et à leurs collègues beaucoup plus intelligents que ce qu'ils imaginaient, parce qu'ils avaient eu un parcours scolaire chaotique, parce qu'ils avaient travaillé très tôt, etc. Ben en fait, au bout de 5 ans, à discuter avec des ministres, à discuter avec des présidents de la République, à se rendre compte qu'ils leur tiennent la dragée haute. C'est-à-dire à se rendre compte qu'en fait, ben, par exemple, un jour, il y a un ministre auprès de Bruno Le Maire, Benjamin Griveaux, qui leur dit « Moi, je suis un spécialiste des plans sociaux ». ça les a un peu énervés. Et donc, pendant 10 minutes, ils ont dit, bah, nous, c'est le troisième plan social, donc on peut vous en parler. Et au bout de ces 10 minutes, le ministre, ça lui échappe. Il dit, ah, c'est instructif de vous écouter. Alors qu'il venait de se présenter comme un spécialiste. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Si 10 minutes, ça suffit pour qu'il apprenne des choses, il y a vraiment un gros problème, quoi. Donc, voilà, moi, je voulais, c'était très important pour moi de pas faire un livre contre le pouvoir en place, mais de faire un livre avec ses ouvriers et de montrer la beauté de cette intelligence qui tout d'un coup surgit là même où personne ne pensait que c'était possible que ça surgisse. Vous savez, comme quand il y a un sol que vous savez polluer, puis en fait tout d'un coup un jour il y a une plante qui pousse. Ben là, c'est exactement ce qui s'est passé pour eux. Ils se pensaient plus ou moins idiots à la tête de l'État, on leur disait qu'ils étaient idiots, et tout d'un coup ils participent à des réunions sur la vie économique de la Creuse, ils arrivent avec des idées pertinentes dans ces réunions-là. La préfète de la Creuse dit « Ah, oh, bah ça, j'y avais pas pensé ». Non, mais c'est incroyable, quoi, le mépris de classe. Encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le mépris de classe, c'est que ce jour-là, Vincent Labrousse, il est arrivé avec des idées pertinentes pour la vie économique du territoire. Alors qu'il a évidemment pas fait d'études sur ces questions-là. Mais juste, en réfléchissant avec son cœur, en réfléchissant avec aussi tout ce qu'il a appris au fil des 10 années de lutte, il est devenu pertinent sur ces trucs-là. Donc, je trouve ça très, très beau. Et je voulais que le livre soit beau.
Et justement, ce que j'ai trouvé très admirable, c'est la volonté qu'ils ont de toujours croire en l'institution. Enfin, ils essayent encore et encore, alors qu'on aurait vraiment pu penser qu'à un moment, il y a un ras-le-bol général, mais ils tentent encore d'expliquer, d'apprendre. Alors qu'elles-mêmes, l'institution les a complètement abandonnées. Quoi. C'est...
En fait, quand vous dites ça, vous mettez exactement le doigt sur le cœur du livre. C'est-à-dire que pendant 2 ans, je n'ai pas voulu faire de livre sur leur situation. Je faisais juste des longs articles qui paraissaient dans des revues littéraires, etc. Sauf que le jour où j'ai compris ça, que c'était ça l'ADN de cette lutte précisément, parce que dans d'autres luttes, ils se disent, au bout d'un moment, ils se disent, on va mettre le feu à la préfecture, on va mettre le feu à Paris, etc. Eux, c'est hors de question. Ils ne veulent pas ça. C'est une option qui n'existe pas pour eux. La seule option pour eux, mais jusque dans une forme un peu de bêtise, c'est de dire, on veut à tout prix que ça reste dans le cadre légal. On ne fera rien d'illégal. D'abord parce qu'on sait que si la machine judiciaire se met en, on va être broyé. Ce sera jamais justifié ce qu'on a fait. Mais c'est surtout que, pourquoi je dis que c'est le cœur du livre, c'est parce que pour moi, là, on a exactement la définition de ce que c'est qu'une tension dramatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de continuer de respecter un système qui vous malmène, voire qui vous méprise? C'est quand même incroyable. C'est quand même on ne peut pas répondre à cette question-là. Eh bien, eux, c'est ça leur boussole. On sait très bien que l'État est un État plus ou moins bourgeois, et avec des gens qui le dévoient, qui dévoient les valeurs de la démocratie, de la République, etc. Mais on va continuer de respecter et on va continuer de chercher à s'inscrire dans ce truc-là. Donc, au lieu de foutre le feu, on va écrire une proposition de loi. Et moi, je me suis dit, ça, c'est une tension impossible. C'est exactement comme dans Racine, quand il faut choisir entre Rome et Bérénice, quoi. Eh ben, dès lors que je choisis, c'est une catastrophe. Je peux pas éviter la catastrophe, quoi. Donc, ce moment d'extrême tension, je me suis dit, il faut faire un livre, en fait. Ça, c'est le cœur d'un livre. C'est plus une affaire d'article, ça.
Et en plus, ils sont porteurs de solutions concrètes, puisqu'à un moment donné, ils imaginent de fédérer les moyennes entreprises sous-traitantes pour créer une sorte de système de veille qui permette de démarcher les marchés européens, c'est-à-dire de ne pas être uniquement dépendant du même donneur d'ordre, et ainsi de pouvoir se sortir de cette dépendance et de cet abandon catastrophique par Renault des commandes. Et donc tout ça est d'une extrême intelligence, et les politiques n'y ont pas pensé une seconde, tout simplement parce qu'ils avaient envie de fossoyer ce site industriel.
En fait, quelqu'un m'a demandé, il y a très peu de temps, m'a demandé pourquoi, qu'est-ce qui fait que là, ils sont toujours encore ensemble? C'est-à-dire, comment ça se fait qu'ils continuent d'être tous amis, de se voir et de militer quand il faut, etc., quand ils peuvent. Et en fait, je pense que la réponse, elle est toute simple, elle est très belle. C'est parce que leur boussole, ce qui les a en permanence guidés dans chaque choix, c'était beau moralement. C'est-à-dire que s'il s'était dit, on va enlever le patron, On va mettre le feu à la voiture du patron, etc. Ils l'auraient sans doute fait, enfin, ils auraient pu le faire. Mais par contre, le lendemain, ils auraient eu du mal à l'assumer. C'est-à-dire qu'il y a, oui, bon, bah oui, j'ai fait un truc hors la loi, bah oui, puis il y a peut-être la maison d'à côté qui a brûlé, etc. Mais c'est tout, on a pris des risques. Donc, ils ne se seraient pas regardés dans la glace, je veux dire. Et donc, ça aurait abîmé le groupe. Alors que là, ils ressentaient tous que systématiquement, les choix qu'ils faisaient étaient des choix qui, moralement, étaient beaux. Et je pense que ça les a aidés à nourrir la joie d'être ensemble. Ça, le fait de savoir qu'il y avait de la noblesse dans leur choix.
Il y a quelque chose de puissant dans cette joie d'être ensemble, précisément, c'est qu'on chante de cette façon toutes les stratégies individuelles et ce qu'on appelait la lepénisation des esprits dans les années 80, qui consiste à envisager d'abord sa propre trajectoire, en quelque sorte hors sol, par rapport à un contexte. Et un épisode très puissant que j'adore, c'est celui de l'omelette aux cèpes. Ah, c'est-à-dire que au Festival de Cannes, la série dans le documentaire de Lech Kowalski sur le site industriel a été retenu. Donc c'est l'espoir d'une visibilité et il y a une délégation d'ouvriers qui se rend à Cannes pour voir, pour assister. Et il y en a un qui est un cuisinier expert qui va chercher tout simplement les produits de la nature et qui partage avec les autres cette omelette aux cèpes. Ce qui est une façon de dire que peut-être l'omelette aux cèpes aussi c'est politique.
Ouais. C'est, en l'occurrence, non mais j'adore les chiffres, il y avait 36 œufs et 2 kilos de cèpes. C'est quand même pas mal, c'est quand même un beau plat. Et l'idée, c'est de mettre tout ça en partage, quoi. Il y a quelque chose de vraiment très, très joyeux là-dedans, quoi. Et en fait, ce sont les plus belles luttes, c'est celles qui, justement, plutôt que d'afficher le désespoir, décident d'afficher tout ce qui nourrit, quoi. Tout ce qui rend plus fort, quoi. Mettre l'accent sur ce qui nous motive et nous enthousiasme plutôt que sur ce qui nous désunit. Et en fait, dans l'histoire sociale, même l'histoire assez récente, on trouve des exemples de ça. C'est-à-dire que le monde néolibéral qui est le nôtre depuis les années 80, grosso modo, est un monde justement qui nous fait croire à la compétition permanente de tout le monde contre tout le monde, quoi. C'est-à-dire qui nous vend une extrême solitude. On est tout seul et mon voisin et mon familier et mon proche, il est capable de me manger à un moment. C'est-à-dire s'il peut me prendre mon boulot, s'il peut me racheter ma voiture, etc., etc. Donc en fait, on est tous dans cette espèce de crainte-là. Tous les liens sociaux se sont amenuis au fil du temps, etc. Sauf que quand on est attentif aux combats sociaux, eh ben, on se rend compte qu'il y a des formes de solidarité et d'intelligence de cette solidarité qui perdurent. J'ai un exemple qui est un exemple incroyable qui a été filmé justement dans les grandes grèves de 1980 sur le site d'Aulnay dont je parlais tout à l'heure en région parisienne. Un jour, donc le site était occupé par l'ensemble des salariés. Ils étaient vraiment très très nombreux à l'époque. Et un jour, la direction se demande comment les désunir. Comment faire pour que la cohésion qu'il y a en ce moment dans le mouvement s'effrite ? Et en fait, ils ont fait distribuer des sandwichs un jour pour le déjeuner, en disant cadeau, quoi, cadeau de la direction. Sauf que c'était des sandwichs intentionnellement traditionnels avec du jambon dedans. Et bien, immédiatement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout tombés dans le piège, immédiatement, ils ont dit on ne touche pas aux sandwichs parce que les 400 Nord-Africains qui sont nos collègues, ils ne vont pas pouvoir le manger. Et donc, on ne va pas manger des sandwichs devant eux. Donc, on se prive du déjeuner plutôt que de se priver de nos collègues. Mais quelle magnifique vigilance, quelle attention et souci de l'autre. Et surtout, ils ont percuté très, très vite. Un autre exemple que j'aime, mais qui est un exemple plus ancien, mais vraiment, j'aime énormément cet exemple-là. Et j'essaye de vous le raconter vite. Dans les années 60-70, en Italie, il y avait une énorme crise du logement. En France, comme il y avait eu beaucoup de constructions après 1945, la crise du logement a été un peu moins forte. En Italie, elle était très forte. Donc, il y avait une pression immobilière terrible. Et quand des rues, des quartiers étaient refaits, très longtemps avant, les gens savaient qu'ils allaient avoir un appartement ou pas. Et donc, là, ça se passe dans la banlieue de Milan, qui est une grosse banlieue, une énorme banlieue ouvrière dans ces années-là. Et voilà, il y a une rue complète, longue, et de part et d'autre, tout a été refait, construit, donc il y a énormément de logements qui vont être livrés. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 2000 logements qui vont être livrés. Les familles sont toutes convoquées pour faire une espèce de cérémonie de remise des clés, etc. Une semaine avant, énormément de ces logements sont squattés par des gens encore plus pauvres, venant des bidonvilles de Milan, et qui, évidemment, eux, n'ont pas eu de logement. Le bailleur social décide de maintenir la remise des clés, et en fait, quand les familles arrivent, ils leur disent, voyez, tous les appartements là sont squattés, débrouillez-vous, nous, on ne peut rien faire. Et donc là encore, le bailleur comptait sur une part mauvaise que soi-disant on aurait en nous, en disant ils vont les sortir manu militari, ils vont se débrouiller, ils vont faire la police eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire vraiment le truc crade. Les familles se concertent, ça dure parce que ils sont très nombreux, ils se connaissent pas, etc. Ça leur prend 2-3 heures dans la journée. Ils se retournent devant le bailleur et ils disent: on ne rentrera dans les appartements, sous-entendu, on ne commencera à verser les loyers que quand toutes ces familles seront relogées. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, moi, je vis avec ma fille. Si on me dit, ah, c'est bon, dans 3 ans, tu vas avoir un appartement un peu plus grand, et que j'arrive ce jour-là et que c'est squatté, et que donc, en fait, je me prends peut-être encore 1 an ou 2 ans à attendre, etc., je ne sais pas comment je vais réagir. C'est pas une fatalité, en fait, la guerre de tous contre tous, quoi. C'est pas une fatalité. En fait, c'est une affaire de réflexion et de sens qu'on veut donner à sa vie, quoi. Et en fait, c'est pas vrai qu'on a tous mauvais fond et qu'on est tous capables d'écraser les autres. C'est pas vrai. Il y a trop d'exemples dans l'histoire sociale qui disent le contraire.
Et donc c'est important peut-être de porter cette parole à contre-temps. Ce sera vraiment peut-être le mot de la fin. Encore un immense merci. Un immense merci aussi à Amélie et Paul, pardon. Je vais laisser la parole à la salle pour les questions.
Je vais passer avec le micro parmi vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je vous le transmets.
Merci beaucoup. C'est vraiment très très intéressant et les derniers exemples font du bien. Donc moi j'avais une question sur le travail de la langue dans ceux qui trop supportent, puisque voilà, vous en avez bien parlé pour l'autre livre, mais je pense notamment sur l'oralité, la manière dont ça s'efface entre l'instance narratoriale et les témoignages, mais voilà, j'aurais été intéressée par cet aspect, merci.
J'ai peut-être eu tort. Il me semblait pour ce livre avec les Creusois que la question de la langue était moins centrale, moins essentielle, parce que évidemment qu'on parle pas la même langue, eux et moi, mais faut pas exagérer quand même, quoi. C'est-à-dire que là où au Congo je décelais énormément de choses dans la façon qu'elles avaient de se confier à moi, et dans le vocabulaire dont moi je disposais, en Creuse c'était moins le cas. Il y avait des différences et elles étaient amusantes. Par exemple, un jour, avant de faire le livre, dans un premier temps, je me suis dit, tiens, si on faisait des portraits vidéo, et le Télérama avait décidé de les publier, ces portraits vidéo. Donc j'appelle un des leaders et je lui dis, oh, c'est fantastique, Télérama accepte de les publier et tout. Et moi, je savais que Télérama, voilà, c'est un nombre d'abonnés et de lecteurs faramineux, quoi. Et il me répond, alors que ça fait déjà 3-4 ans qu'il parle tous les jours quasiment à des journées, il me dit, c'est quoi Télérama? Donc je voyais bien que là, il y avait un gap culturel, pas au sens de la grande culture, mais de référence, quoi, qui n'était pas le même. Mais sur la langue, alors, résultat, là, les entretiens, oui. Oui, oui. Ouais. Les entretiens, je les enregistrais tout le temps. Et donc, ça me permettait de revenir systématiquement à ce qu'ils avaient dit et vraiment à leur pause, d'être vraiment très, très attentif à comment ils m'ont raconté une chose. Encore une fois, je suis rarement tombé sur des anecdotes, sur des différences hyper significatives. Vous voyez, par exemple, au Congo, quand je prenais en note ce que me disaient les filles et que le soir, je l'écrivais à l'hôtel, je voyais bien que je l'écrivais dans un français qui n'était pas du tout celui qu'elles avaient utilisé. Là, en Creuse, ce n'était pas le cas. Donc, résultat, moi, mon timbre de voix dans le livre creusois, je m'autorise à écrire de manière très littéraire, mais je ne cherche pas non plus à typer ou à rendre exactement la façon qu'ils ont eu de me parler, parce que ça ne me semble pas très significatif. Quoi. C'est, oui, d'accord, des fois j'aurais pu respecter plus l'oralité, et puis des fois j'aurais pu respecter plus les hésitations, mais je trouve pas que ça aurait fait un espèce d'effet de réel, mais pas obligatoirement un effet intéressant. Voilà. Ça c'était mon arbitrage, après je peux avoir tort, hein. Vraiment je laisse la chose ouverte, j'étais pas sûr de moi comme j'étais sûr au Congo.
D'autres questions, Martin?
Merci beaucoup pour cette présentation. Ça va un peu dans le sens aussi de Sybille, parce que tu avais dit au départ le livre peut être le lieu de récolte de cette parole, mais entre la récolte et le livre il se passe pas mal de choses, quoi. Donc il y a une médiation en fait entre les deux, et là bon, tu as déjà répondu sur ce que tu faisais en fait avec la parole récoltée, comment tu te débrouillais pour la transcrire le plus fidèlement ou le plus sincèrement possible, mais il y a aussi dans le livre tout un tas de réflexions sur ta propre position que tu rajoutes, et même si on peut dire, bon, c'est peut-être mal choisi le mot, une possibilité de lecture pour ton lectorat. Donc il y a, on passe en permanence entre ces trois pôles. Et comment tu as en fait construit cette chose-là? Et l'autre question, c'était plus pour les GM plus S, parce qu'évidemment, c'est très beau cette supériorité morale en respectant en fait la loi et la parole donnée, mais c'est très, très fort aussi dans le livre. Même si les autres ne le respectent pas, donc on est toujours dans le piège. Et en plus, eux, ils sont doublement dans le piège. C'est presque une mission impossible de transformer cette supériorité morale en un rapport de force de changement, parce qu'ils restent en fait dépendants de leur commanditaire, et même la loi ne changera rien à ce rapport-là.
La première question, c'est au Congo, je l'ai dit, j'avais l'impression de faire partie du problème. C'est-à-dire j'avais l'impression que je ne pouvais pas parler de ces jeunes femmes-là sans moi apparaître dans le champ de la caméra, ce que je ne fais pas dans les autres livres. C'est le livre où j'apparais le plus et où je parle même de moi, etc. Je parle de mes histoires d'amour, de ma détresse amoureuse, etc. Mais parce que j'avais l'impression que ça faisait partie du sujet et que si je ne faisais pas ça, je regardais les filles de trop loin en faisant croire qu'elles pouvaient être un objet d'étude et que moi, par contre, je m'acceptais de la chose. Pour la Creuse, encore une fois, je faisais moins partie du sujet. Donc je suis moins présent dans le livre. Par contre, l'effort d'écriture est le même, c'est-à-dire je cherche là encore à créer une plateforme un peu d'égalité entre eux et moi. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, il y a deux chapitres où j'ai écrit le chapitre, et puis c'était sur des sujets que je ne maîtrise pas bien, par exemple sur l'histoire syndicale, etc. Donc je me méfie un petit peu de mes analyses. Et donc, par deux fois, j'ai envoyé mes chapitres à certains de ces ouvriers pour qu'ils me donnent un retour de lecture. Et par deux fois, le retour de lecture a été sidérant. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un, il me dit « Non, franchement, là, ton chapitre, ça ne va pas. Tu tapes trop fort sur telle ou telle personne. Tu t'en prends trop à la préfète de la Creuse. Elle est peut-être plus sincère que ça, etc. » Leurs réponses m'ont tellement intéressé, je les ai trouvées tellement surprenantes que je me suis dit, je vais prolonger mon chapitre avec ce retour de lecture. C'est-à-dire, dans le chapitre même, je donne les clés pour critiquer le chapitre. C'est la même idée, c'est-à-dire ne pas faire du livre un lieu de pouvoir. Ne pas chercher à prendre le pouvoir sur eux en écrivant le livre. Considérer que... Je ne pense pas m'être trompé lourdement dans les chapitres, mais par contre, je pense qu'ils ont encore plus raison, et de toute façon, c'est leur histoire. Donc même s'ils me contestent, je dois continuer de leur donner la parole. Voilà, ça, c'est le... Et ta deuxième question, c'était...
C'était de transformer la supériorité morale
oui.
en puissance en mode de changement qui a quand même le but.
Ouais.
Même oui, si mais c'est pas approuvé, on avait déjà
parlé. Non, mais les hommes politiques ou les industriels à qui ils ont eu affaire s'en fichent complètement de savoir que les ouvriers GMS ont une supériorité morale sur eux. Ils s'en fichent complètement. Et par contre, les GMS ne s'en fichent pas de savoir qu'ils ont une supériorité morale. C'est-à-dire que eux, ça les a beaucoup aidés à tenir et à pas désespérer. Encore une fois, ils ont fait quelque chose de beau et ça les porte, ça les transporte.
C'est d'autant plus remarquable d'ailleurs, cette impartialité en fait. Parce qu'à un moment donné, tu fais une analyse complète, presque temps par temps, du discours à l'enterrement de Yann, de la préfète qui arrive et qui, au lieu de se garer avec les autres voitures, fait emprunter à sa voiture l'allée centrale, celle qui est réservée à l'arrivée du corps. Donc première transgression. Et au fond, dans la lecture que les ouvriers font de son discours, il y a beaucoup plus d'indulgence que dans ta propre lecture. Et finalement, ce correctif montre une espèce de profondeur de champ, en réalité, dans leur lecture, qui est vraiment impressionnante. Mais encore une fois, effectivement, comment une victoire morale pourrait devenir une victoire politique, ça reste une question.
En fait, moi, en faisant ces deux récits documentaires, et surtout le second qui a comme ça une tonalité, si on le lit trop vite, on peut dire une tonalité militante, etc., je veux quand même que ça s'inscrive dans la littérature. C'est-à-dire que quand je fais ces livres-là, je n'ai pas l'impression de faire du journalisme. Pour moi, ça questionne encore la littérature. C'est-à-dire que l'effort que je fais pour faire une description juste de ces personnes-là, une description qui ne serait pas caricaturale, c'est exactement le même effort quand je fais un roman, une fiction. C'est-à-dire, j'essaye aussi de faire que mes personnages ne soient pas caricaturaux. En fait, l'exigence éthique est la même dans une fiction, y compris une fiction très déconnante, que dans des livres comme ça, qui sont absolument sans fiction et qui rapportent des pans de réel, quoi. L'effort d'écriture est exactement le même.
On va prendre une dernière question et mettre fin à cette rencontre. Si on n'a pas, je vais me permettre de vous poser. Ah. Bon, très bien. Je vais vous poser une question alors par rapport à la puissance en fait du groupe dans la plupart de vos romans. Donc, c'est quelque chose qu'on remarque dans Des châteaux qui brûlent, qu'on remarque aussi dans Ceux qui te supportent. Donc, vous avez parlé de l'institutionnel, mais il y a notamment cité le fait que ces personnes, elles continuent à croire en l'institutionnel, et pourtant, ce sont des groupes qui se forment de manière non institutionnelle, qui les syndicats, par exemple, sont assez peu cités, notamment dans Ceux qui te supportent. Alors évidemment, il y a des délégués syndicaux qui ont des places très importantes, mais c'est vraiment le fait que les personnes soient collègues, qu'elles soient au même endroit, qui les forge entre elles, que ce n'est pas une fédération qui va les pousser à se regrouper et à faire grève ensemble, c'est vraiment cette proximité physique qui crée la force du groupe.
Oui, en fait, je fais une réponse courte, mais ça appellerait vraiment des réponses plus longues. Les partis politiques, les syndicats, s'il y a une chose qu'ils détestent, c'est le côté spontané de certaines révoltes. Ils détestent ça, les syndicats aussi. Pareil, je vais vous donner un exemple très simple. La proposition de loi rédigée par les GMS, il a fallu un an et demi pour qu'elle fasse le parcours prévu à l'intérieur de l'administration de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire pour que, entre le jour où ils l'ont envoyée et le jour où elle a été enregistrée par le bureau de l'Assemblée nationale avec un vrai numéro, etc., pour l'histoire, qu'il a été édité, etc., il s'est écoulé un an et demi. Eh bien, croyez-moi, il s'est écoulé un an et demi à l'intérieur de la CGT aussi, alors qu'ils sont tous de la CGT. C'est-à-dire que la CGT, au lieu de réagir à toute vitesse en disant « Oh, incroyable, on a des camarades syndiqués qui ont fait une proposition de loi, ça n'arrive pas tous les jours, etc. Vite, précipitons-nous, demandons à passer au journal de 20h pour mettre en avant le fait qu'on a des gens comme ça de valeur. » Pas du tout. Pour les punir d'avoir pris cette initiative-là, etc., eh ben, ils ont fait traîner le truc pendant un an et demi. Donc moi, c'est là où c'est pas un travail militant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de décrire la vitalité. C'est ça, c'est de traquer la vitalité chez les gens, que ce soit dans le roman ou dans des récits documentaires. Et donc, la vitalité, elle est là. C'est quand n'importe quelle forme d'institution cherche à tout prix à calmer le jeu, à calmer les gens, à faire qu'il y ait moins de vitalité qui s'exprime, et quand, au contraire, justement, il y a de la vitalité qui s'exprime et qui décide de de pas en rabattre, de pas se taire, etc. Donc, d'une certaine manière, toutes les discussions politiques dans Des châteaux qui brûlent ou dans Ceux qui trop supportent, on pourrait presque les enlever des deux bouquins, parce que c'est pas ça le vrai cœur du truc. Là, j'en parle et tout parce que ça me motive, mais c'est pas ça le vrai cœur du truc. Le vrai cœur, c'est de décrire encore une fois des formes de vitalité et la joie, l'intelligence qui naissent de ces moments-là.
Arnaud Bertina, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à cette rencontre. Merci encore à Christine Baron, qui avait animé avec brio, et également Mélie. Et nous allons passer à l'entretien suivant, sans trop tarder.
Merci beaucoup. On peut applaudir, s'il vous plaît.